Transversal.
Bonjour à tous les auditeurs de Transistor. Bonjour chère Pauline.
Bonjour cher Cyril.
Soyez les bienvenus dans ce 37e numéro. Alors déjà 37e, on s'est un petit peu emmêlé dans les chiffres par le passé, j'ai l'impression. Un transverseur consacré une fois encore au cinéma. On se propose de passer un petit moment en votre compagnie, si vous le voulez bien, et de parler ensemble du film Les Infidèles, sorti récemment de et avec Jean Dujardin.
C'est qui Jean Dujardin?
Ça ne me dit rien. Ainsi que de deux autres sorties récentes, Martha, Marcy, May, Marlène et Bovine d'Emmanuel Gras. Nous passerons enfin au Rayon X, les dernières cérémonies des Oscars et des Césars qui, chaque année, livrent leur lot de secrets sur l'industrie du cinéma.
Sans plus attendre, débutons ce 37e numéro de Transversar où vous entendrez parler de néo-beauf parisien, du postérieur de Jean Dujardin, de vainqueurs et de déçus, de sectes et même de jolies vaches.
Comment t'expliques que le lundi j'ai envie de rester à la maison tranquille avec ma femme, dès le mercredi j'ai envie de niquer l'Île-de-France? J'étais avec toi hier.
Ok. Au schmuck.
Jusqu'à
5h.
Il était où cette nuit?
Au schmuck.
Jusqu'à quelle heure?
5h.
Oh putain, les enculés, ils ont tout préparé.
Vous deviez être en vacances au Groenland si vous n'avez pas senti des effluves de la Dujardinomania qui a déferlé après la consécration de The Artist au César et aux Oscars. Les Infidèles est sorti récemment et a fait une petite polémique en raison de son affiche qui présentait les deux jambes d'une femme, les deux jambes dévêtues d'une femme face à deux hommes qui rient ensemble d'un rire gaulois. Présentons rapidement le film pour ceux qui ne voient pas de quoi nous parlons. Il s'agit d'un film à sketch, différents sketchs, je ne sais plus exactement, 7-8, Pauline, tu pourrais me...
À peu près 7-8,
à peu près 7-8, réalisé par divers réalisateurs, dont Michel Hazanavicius, récemment couronné par l'Oscar du meilleur réalisateur, Emmanuel Berco également, ainsi que Dujardin et Gilles Lelouch eux-mêmes. Ce sont différents petits sketchs réalisés dans la veine de la comédie italienne telle que la pratiquait Dino Risi, et c'est d'ailleurs une référence que les réalisateurs et acteurs ont pleinement assumée. On y trouve dans ces sketchs divers épisodes de la vie d'un duo...
Je t'arrête parce que tu dis de la vie, mais c'est des vies, hein, puisque c'est évidemment des personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
Bien entendu, hein, oui. Ce n'est pas un film cohérent. Divers épisodes de la vie de potes quarantenaires parisiens, particulièrement infidèles, qui sortent tour à tour avec une jeune de 20 ans, qui se retrouvent face à la nécessité d'avouer leur tromperie à leur femme, ou qui partent éventuellement à Las Vegas pour se payer des prostituées.
Tout un chacun en somme.
Bien entendu. Alors, tout simplement, j'ai déjà été surpris agréablement par le film, car c'était le film qui se veut avoir l'affiche, hein, qui se veut un film trash. Et comme souvent dans le cinéma français, on se retrouve ensuite avec des films bien sages et bien propres. Mais de ce point de vue, c'est assez réussi, car le film est véritablement grossier. Il y a plusieurs scènes de sexe explicites. Les acteurs revendiquent ce côté-là et ont parlé de comédie pour adultes. Et c'est vrai que c'est un genre assez rare. Et les acteurs ont même donné véritablement de leur personne. Je pense notamment à une scène extrêmement crue et extrêmement surprenante. C'est la dernière scène du film. Je ne voudrais pas spoiler à ceux qui n'ont pas vu, mais Jean Dujardin se fait tout simplement sodomiser par son ami Gilles Lelouch.
Tu spoiles un peu, d'accord.
Je spoile un peu, voilà. Mais c'est pour donner envie aux gens de le voir.
Oui, je suis d'accord avec toi. Le film est assez trash. Ce dont on pouvait s'attendre quand on voyait la bande-annonce, qui en effet montrait quelques scènes osées. Je ne trouve pas que ce soit forcément une qualité à mettre au crédit du film. Je pense qu'il se lie les mains un peu, d'une certaine manière, quand il fait du trash comme ça, parce que il annonce un humour grivois, un humour grossier. C'est peut-être parfois un peu plus fin que ça. Enfin bon, il y a divers qualités de sketch, mais il y a des... Je pense qu'il se ferme à un certain public avec ce,
trash-là. Le film se ferme tout à fait à un certain public, mais au moins il ne ment pas sur son contenu en faisant croire qu'on va se retrouver avec un film osé et se retrouver finalement avec... American Pie, voilà.
Oui, tout à fait.
Le film en plus... parfois est véritablement drôle. Il y a certains moments où le film verse dans le one-man show, par exemple une séquence centrée autour d'une blague racontée volontairement de manière très mauvaise par Jean Dujardin.
Ah oui, c'est très drôle ça.
Jean Dujardin est mis en valeur constamment dans le film et des deux, entre Gilles Lellouche, qui a quand même un jeu assez plat et convenu, Jean Dujardin, dans des passages comiques, s'élève véritablement au-dessus de son partenaire.
Oui, c'est vrai. C'est peut-être l'euphorie qui accompagne les Césars, mais je trouve que Jean Dujardin s'est beaucoup bonifié. C'est beaucoup bonifié dans des rôles comme dans The Artist, qui ne sont pas forcément comiques, mais il sait retrouver le comique. Je pense qu'il le fait avec bonheur quand il le fait, notamment dans Les Infidèles.
Voilà, et impossible de ne pas penser à Un gars, une fille, par exemple.
Oui, c'est vrai. Mais je nuancerais quand même ce propos. J'ai été personnellement très surprise par le film. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais vu la bande-annonce qui ne m'avait pas donné spécialement envie. Puis en plus, avec tout ce Dujardin washing, on n'avait peut-être pas envie de s'en payer une grosse louche. Mais j'ai été très surprise assez agréablement parce que j'ai trouvé qu'il y avait une vraie liberté formelle dans le film. Les sketchs sont très disparates. Ils sont disparates à tout point de vue. Ils ne sont pas de la même qualité, mais ils ne sont pas la même longueur. Ils n'ont pas le même point de vue sur le couple. Certes, bon, l'infidélité sert de fil conducteur et c'est bien normal, mais il y a des objets cinématographiques non identifiés, il y a des espèces de très courtes séquences qui sont comiques, il y a une scène par exemple de thérapie de groupe qui est pour le coup extrêmement comique.
C'est assez drôle.
C'est drôle cette séquence avec Sandrine Kiberlin en femme... femme libérée, dirons-nous.
Oui, en thérapeute
tout à fait hystérique mais marrante. Et y a aussi la tragicomédie, parfois avec des sketchs un peu plus doux, amers, voire assez tragiques. Je pense à la scène entre Alexandra Lamy et Dujardin, hein, qui sont, bon, tout le monde le sait, mais couple à la ville. Couple à l'écran, et je trouve que c'est un des meilleurs sketchs, d'ailleurs.
Bon, certes, on navigue de genre en genre. Cela dit, les sketchs sont quand même très inégaux dans le ton et même dans la qualité,
oui,
de leur réalisation.
Oui, c'est vrai.
Tous ne se valent pas et certains, je pense au sketch où Manu Payet se fait attraper par sa femme et ses enfants en train de fouetter une grand-mère dans son garage. Bon, c'est de l'humour quand même un petit peu facile, basé sur un effet de surprise.
C'est des mini-sketchs comme ça. Il faut bien avouer qu'on se marre... franchement, mais c'est pas potache, moi, j'ai trouvé.
T'as pensé quoi des acteurs ?
Qu'est-ce que j'ai pensé ? Oui, alors j'ai beaucoup aimé Dujardin. Hein, je trouve que voilà, il est très drôle, mais il est pas que drôle parce que c'est pas que un défilé de sketchs comiques et gras comme Dujardin l'a fait dans ses one man shows, etc. Ou que tous les comiques font dans les one man shows. Il y a vraiment des comme je l'ai dit, voilà, des sketchs avec des tonalités différentes. Et du coup, on a des numéros d'acteurs qui sont différents, qui sont assez subtils. C'est finalement assez rare de pouvoir comparer dans un même film différentes performances d'acteurs, d'un même acteur comme ça. Donc, ils montrent bien, je trouve, l'étendue de leur talent, tous les deux. Hein. T'as dit que Gilles Lellouche était moins bon. Moi, je le trouve assez bon quand même. Bon, Dujardin est meilleur, et puis Cocorico et tout ça. Donc, voilà. Mais ils sont pas mal, tous les deux.
Ouais, si tu permets, j'ai quelque chose d'autre à opposer au film. Le film se prétend être un film sur l'infidélité quand même, hein, c'est le thème principal. Le film s'appelle Les Infidèles. Hein. Il présente des morceaux choisis pour leur potentiel ou comique, par exemple la scène avec Manu Payet, ou dramatique, celle avec Alexandra Lamy. Mais on reste quand même dans le portrait de l'infidélité. Ça ne dit pas grand-chose. Et souvent, ça présente l'infidélité de manière extrêmement caricaturale, alors que pourtant le film avait une certaine prétention d'universalité. Le film, en gros, vise un peu à faire le portrait d'une génération d'hommes foncièrement infidèles, un peu un discours selon lequel toute la gente masculine serait comme ça. Or, tous les infidèles ne sont pas pétés de thunes, pardonnez-moi l'expression, comme Dujardin et Gilles Lellouche, et tous les infidèles ne sont pas obligés de faire leur chemin de Compostelle jusqu'à Las Vegas pour se taper toutes les prostituées de la Terre. Non. Et c'est ça, il y a une tension permanente entre un certain naturel dans l'expression et dans, dans les répliques qui a été extrêmement bien trouvé, et aussi ces éléments qui sont totalement farfelus.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que sur l'infidélité, on a un message assez flou, assez universel, etc. Je trouve que, moi, un aspect je trouve positif dans le film, c'est une espèce de cynisme dans son parti pris. À l'évidence, il ne défend pas l'infidélité. À l'évidence, ce que montrait l'affiche, justement, l'affiche a été traitée a été interdite parce qu'elle était machiste, parce que c'est vrai, la femme était traitée comme un objet, etc. Mais le film ne cesse de démonter ce regard-là sur les femmes durant tout le film, et je trouve que voilà, il est assez malin de ce point de vue-là. Il y a une espèce de cynisme assez inquiétant dans les rapports hommes-femmes qui certes sont traités de manière assez désespérée tout le long de tous les sketchs, mais ce n'est en aucun cas une apologie de l'infidélité. Il y a notamment donc deux sketchs pour moi qui se détachent, qui dénoncent bien le pathétique du comportement de ces hommes qui ne peuvent pas s'empêcher de baiser ici et là. Il y a une scène, donc la première c'est avec Jean Dujardin qui est commercial dans une entreprise de grains. Oui. Qui n'est pas un néo-beauf parisien, ce personnage-là, contrairement peut-être aux autres. Il essaye de tromper sa femme durant un séminaire. Alors, il essaye de coucher avec absolument tout le monde. Il commence par la plus belle nana pour finir par Isabelle Nanty. Voilà, et il se retrouve finalement tout seul dans sa chambre. C'est une scène, c'est un sketch assez doux, amer. On sent que son imaginaire... Alors, à la fois, on le déteste. À la fois, il y a une certaine empathie envers ce personnage complètement paumé. C'est dans cette scène que Jean Dujardin raconte une blague qui tombe complètement à plat, ce qui est très drôle d'ailleurs. Et voilà, on sent que son imaginaire est complètement en décalage avec la réalité pathétique de sa vie sociale.
Bon, tu as pris l'exemple de ce personnage-là, mais je tiens quand même, je maintiens, et c'est, d'ailleurs rendons grâce à l'inventeur de cette expression, c'est le critique de cinéma Vincent Maloza des Cahiers du cinéma, qui a parlé de l'apparition d'un nouveau type de personnage, le néo-beauf, qui n'est désormais plus le beauf standard tel qu'a pu l'incarner Franck Dubosc, c'est-à-dire le beauf cool, en sandales comme dans Camping, mais désormais le néo-beauf toujours aussi macho, dédaigneux envers la culture, mais désormais riche, parisien, et porté voilà, sur des valeurs d'amitié, viril, etc., qui correspondent bien.
Oui, mais ce n'est pas du tout un modèle, ce mec. Donc, c'est au contraire... c'est l'anti-virilité, c'est l'anti-charme, c'est...
On parle de l'homme qui vend des grains au début du film ?
Non, moi je parle du néo-beauf incarné par Gilles Lelouch. Permets-moi de citer mon deuxième exemple. Dans le deuxième sketch voilà, dont je voulais parler, c'est celui où Gilles Lelouch sort avec une minette là, étudiante de 20 ans qui est donc à la Sorbonne voilà, et elle a 20 ans, il en a 40, elle l'emmène dans des soirées où il n'est absolument pas le bienvenu, hein. Lui c'est un quarantenaire cravaté qui roule en grosse berline familiale. Et on montre bien le décalage, l'incompréhension totale entre voilà, cette nana bien roulée, mais complètement... pas sotte, mais jeune, quoi. Elle a 20 ans, lui, il en a 40. Ils n'ont pas grand-chose à se dire, finalement. Et voilà, c'est assez marrant, finalement, de démonter comme ça le fantasme du quarantenaire qui se tape une meuf de 20 ans. Ça m'a fait rire. Et ce regard doux amer, je l'ai trouvé assez intelligent, finalement. Et je pense qu'il apportait un regard c'est pas un tsunami, mais c'était assez novateur, quand même. Voilà, donc c'est pas un humour potache et c'est pas... ça l'est par moment, mais pas toujours, et ça va un peu plus loin que ça.
Hello? Hello?
Hi.
Martha? Where are you?
I'm not sure.
Find out where you are and I will come get you.
I can't wait that long.
Alors, je voudrais revenir sur deux films qui étaient à l'affiche la semaine dernière. Deux plutôt petits, moyens films, on va dire. Enfin, Bovine, c'est un petit film. Martha, Marcy, May, Marlène, c'est un film indépendant, mais un peu plus importants, dont on a parlé un peu plus. On a en tout cas pas autant parlé de ces films que du Triomphe de Jean Dujardin. Donc tournons un peu la page dans cette deuxième partie d'émission.
Alors pour le signaler, la jeune fille, pour ceux qui ont vu l'affiche de Martha, Marcy, May et Marlène, hein, rien que le prononcer est un défi. Il s'agit de la sœur des jumelles Margaret et Ashley Olsen qui ont fait le bonheur des séries télé américaines de notre enfance dans les années 90.
Dont on les a toutes vues. Cette fille d'ailleurs est une très bonne actrice, Elisabeth Olsen. Elle est également très très belle et le film repose en grande partie sur sa plastique, comme je vais le dire. Donc je vous fais un petit résumé de Martha, Marcy, May, Marlène. C'est pas très facile à retenir. Martha s'échappe donc de la secte où elle a trouvé refuge 2 ans auparavant. Elle se réfugie chez sa sœur, Judy, mais ne parvient pas à retrouver la sérénité hantée par ses aventures communautaires. Je l'ai vu cette semaine et il m'a semblé intéressant d'en parler parce que les critiques qui ont accompagné sa sortie étaient littéralement dithyrambiques et moi je m'oppose totalement à cette vision et là je peux faire un petit peu la différence parce que je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que à plusieurs niveaux le film est totalement bancal. Au niveau de la construction, on peut dire qu'elle est très pauvrement pensée, je pense. C'est construit sur une alternance de scènes au présent, donc chez sa sœur, près d'un lac, dans une grande maison bourgeoise dans l'État de New York, et de flashbacks, qui se situent dans sa secte durant ses 2 ans. C'est une sorte de groupe de hippies qui partagent donc dans une ferme, bien travail. Et bien plus, mais je ne révèle rien. Il y a une espèce d'alternance très mécanique entre scène au présent, flashback, scène au présent, flashback. Enfin, c'est pas surprenant du tout et c'est très dommage. Ensuite, mon reproche principal, c'est que le réalisateur n'a pas le moyen de ses ambitions. Il propose la vision d'un personnage qui s'ennuie, qui est un personnage fragile, blessé, qui est très contemplatif, mais il n'ose pas lui-même être contemplatif. Il n'ose pas, il a peur d'ennuyer son public alors qu'il ne l'ennuierait pas du tout en introduisant, en ralentissant le rythme, en introduisant pas toujours des scènes. En rythmant son film de manière comme il le fait, je pense que son film gagnerait beaucoup au contraire. Le personnage de Marcy May Marlène, enfin Martha Marcy May Marlène, rappelle par certains points de vue le personnage de Kirsten Dunst dans Mélancolia, qui était un personnage qui avait beaucoup plus d'ampleur à la fois métaphysique, dans sa dépression et dans cette dépression qui entraîne l'univers tout entier. Bon, là, c'est un personnage un peu plus modeste, mais qui est assez ennuyeux, avec qui on n'a pas vraiment d'empathie, on ne comprend pas vraiment pourquoi elle se rebelle, sa rébellion contre la société est à peine esquissée, enfin c'est un peu, c'est un personnage qui est très lisse. Et ça, c'est la faute évidemment du film, c'est la faute du réalisateur, c'est la faute du monde qui est construit dans le film et qui, selon moi, n'existe pas, ou alors ce n'est pas du tout un monde qui m'intéresse, que j'ai envie de voir au cinéma, c'est un monde où tout le monde est beau, où tout le monde est bien habillé, où tout le monde est... Tout est bien polissé, l'image est bien polissée, il y a une espèce d'effet de flou avec une très courte profondeur de champ qui fait qu'on a une espèce de flou en arrière-plan tout à fait écœurant physiquement et intellectuellement.
On est chez Sofia Coppola, tout simplement. Hein,
oui, on est chez Sofia Coppola, mais sans le talent de Sofia Coppola, justement, sans cette propension à la contemplation, à la réflexion, à l'émergence des sentiments. Ici, on a rien de tout ça. On a une publicité pour Levi's, si vous voulez, d'un côté, dans la secte, où ils ont des chemises sales et des shorts en jean. Et on a de l'autre côté une pub Comptoir des Cotonniers. Voilà, et ça suffit pas. Moi, je pense que quand les fringues seront démodées, ce film sera démodé. Donc, ce n'est pas ce que je recherche.
Tu voulais parler de Bovine aussi.
Oui,
d'Emmanuel Gras.
Oui, c'est vrai, merci. Je voulais parler de Bovine. Voilà, ça me fait d'autant plus plaisir de défendre ce film que j'ai détesté, Martha, Marcim et Marlène. Bovine est donc un film d'Emmanuel Gras. C'est un film qui filme le quotidien de vaches normandes en Normandie. C'est tout à fait réjouissant.
Alors, je n'ai pas vu le film, hein, je le confesse à nos auditeurs.
On te le pardonne.
Est-ce un documentaire? Car l'affiche, bon, voilà, des vaches, a priori, ne peuvent pas...
La question se pose. Ce n'est pas un documentaire à stricto sensu, même s'il n'y a pas vraiment de fiction dans le film. Le réalisateur nous apprend à la fois beaucoup de choses sur les vaches, mais il ne nous dicte rien sur les vaches. Il n'y a aucune voix off, il n'y a aucun commentaire, il n'y a aucune musique d'ailleurs durant tout le film. Hein. La bande son, c'est la bande sonore des vaches, de la nature, de l'herbe arrachée, etc. Donc il n'y a aucune narration finalement dans le film. Le message ici est entièrement livré par la puissance du cadre qui est imposé à l'image. Il y a une très grande composition de l'image qui est faite dans le film. Et ce sont les bêtes qui sont finalement les chorégraphes de cette action. C'est elles qui décident totalement de l'action. Le réalisateur ne fait que poser le cadre. Je pense à une scène d'accouchement où... Le cadre est posé, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a une vache allongée dans l'herbe. Et puis on se rend compte, au bout d'une minute, qu'il y a quelque chose qui bouge quand même entre ses jambes. Voilà. Mais le cadre ne s'approchera jamais. Donc on reste là témoin, on a envie d'en savoir plus. Mais voilà, le réalisateur décide de ne pas nous faciliter cette scène en plaçant tout de suite sa caméra. Nous sommes les témoins discrets et respectueux. Voilà. Et il y a beaucoup de scènes comme ça où, une fois le cadre posé, le réalisateur attend que les vaches viennent devant sa caméra. Elles livrent chacune une action différente. Elles sont très intéressantes. Elles sont intéressantes parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir d'aussi près, on n'a pas l'habitude de les voir courir, on n'a pas l'habitude de les voir brouter d'aussi près. Oui, il y a des cadrages très serrés comme ça qui ont des effets très comiques, hein, notamment celui où on voit la mâchoire de la vache qui fait toujours le même mouvement. Enfin, c'est très drôle, il faut le voir pour le croire.
Oui, ça ressemble à un exercice de style, c'est-à-dire faire naître... à la fois des sentiments, faire naître rire, par exemple, de choses assez banales, filmées d'une manière...
Tu as raison, c'est un exercice de style parce qu'il y a beaucoup de style dans ce film et c'est surprenant, justement, vu le sujet. C'est un exercice de style, mais ça, je pense que ça va au-delà, que c'est... C'est beaucoup plus intéressant qu'un simple exercice de style, puisque on apprend beaucoup sur les vaches, puis on apprend aussi qu'on peut oublier ce que c'est une vache, parce qu'on ne sait pas finalement ce que c'est une vache. Là, on nous la montre dans des états où on n'a pas l'habitude de la voir, et puis finalement, on oublie un peu ce qu'on a sous les yeux, un peu comme quand on répète, vous savez, un mot pendant une minute, tout d'un coup, le concept nous échappe, on ne sait plus, on réapprend, on doit réapprendre, en fait, à parler quand on fait ça. Et là, c'est un peu la même chose. On voit tellement de vaches, on les voit tellement près. Des fois, on a des cadrages sur leur pelage magnifique. Et puis, voilà, on voit un paysage dans le pelage. On oublie que, finalement, c'est la peau d'un animal qu'on a sous les yeux. Donc ça, c'est très intéressant. C'est justement, alors là, pour le coup, un film très contemplatif, mais pas ennuyeux du tout. Hein. D'ailleurs, c'est très court, ça dure, je pense, moins d'une heure. Enfin, moi, à ma montre, c'est moins d'une heure. Mais c'est très court et c'est passionnant. C'est passionnant. Voilà. Donc, je vous encourage à aller le voir. C'est un petit film qui n'est pas prétentieux, qui est contemplatif sans être ennuyeux, qui est tout à fait à soutenir.
Je voudrais juste dire un tout petit mot. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? Je voudrais, s'il peut venir, mais je sais pas si on a le droit.
Non, on n'a pas le droit. Hein? Rien de sexuel.
Rien de sexuel. Je voudrais qu'il monte, Didier. Ouais. Parce que j'adore, je suis ravie que tu l'aies, Michel, mais je voulais que ce soit... Enfin, je... Voilà, pardon. Oh, mon Dieu. Mais voilà, Didier, t'es où, mon Didou?
Dans le dernier numéro, nous avions émis ensemble quelques pronostics sur les deux grandes cérémonies de récompense du cinéma français et du cinéma américain. Je veux parler respectivement des Césars et des Oscars. Les deux ont couronné The Artist et notamment son interprète principal, à savoir Jean Dujardin, et je pense que ça n'a échappé à personne.
Vous l'aurez compris, on a fait un petit intermède sans Jean Dujardin, mais on ne peut pas
voilà,
ne pas en parler.
Cette émission est fondamentalement sur Jean Dujardin.
C'est un spécial Jean Dujardin.
J'aimerais toutefois examiner plus en détail le palmarès de ces deux cérémonies qui, au-delà de procurer du strass et des paillettes et de voilà, se jeter des fleurs au sein du show business, les palmarès de ces cérémonies, généralement, en disent très long sur l'état de l'industrie du cinéma et ces deux cérémonies relèvent véritablement d'une stratégie de valorisation de certains types plutôt que d'autres. Les deux cérémonies se sont rejointes dans l'idée de valoriser un film assez atypique dans sa forme, un film muet qui a donc un petit côté prouesse technique jamais vu, un petit côté nous faisons
et
parler les images.
Et malheureusement, ce n'est pas bovine, hein, ce film muet.
Ce n'est pas bovine. Logiquement, les deux acteurs qui supportent cette démarche artistique hors du commun, mais bon, dont il faut reconnaître quand même le caractère audacieux, ont été récompensés. Dujardin a eu l'Oscar du meilleur acteur et Bérénice Bejo le César de la meilleure actrice. Elle s'accorde également dans le fait de récompenser Une séparation d'Ashgar Faradi, un film qui fait figure de proue mondiale d'un cinéma iranien bouillonnant mais toutefois très exigeant dans la veine du père spirituel Abbas Kiarostami. Au César, il faut tout de même rendre hommage aux films qui ont rempli les salles. On se souvient de Danny Boone qui avait protesté parce que son succès public Bienvenue chez les Ch'tis n'avait pas été entre guillemets reconnu par la profession. Les films cette année ont véritablement rempli les salles françaises. C'est une année exceptionnelle pour la fréquentation qui a remonté à près de 220 millions de spectateurs. Et il faut rappeler aussi que ce sont les exploitants de salles de cinéma qui votent au César. Intouchable, par conséquent, ne pouvait pas repartir bredouille, même si, bien entendu, la piètre qualité du film fait qu'il est impossible de lui donner des récompenses majeures. Omar Sy ramasse donc son César du meilleur acteur. C'est un compromis qui arrange tout le monde et en plus qui sonne comme un appel à la diversité du plus bel effet. Les victoires de la musique récente l'ont également démontré. Le vintage, le rétro, le « c'était mieux avant » est particulièrement à la mode hein, dans un monde qui, vous le savez, évolue à toute vitesse et qui nous fait perdre nos repères. Rien que le succès de The Artist et son côté splendeur passée d'Hollywood le prouve, les Césars le confirment en donnant le César du second rôle à deux jeunes pousses hein, du cinéma français, Michel Blanc, un jeune pousse, un nouvel espoir, et Carmen Mora, quand même 66 ans, bel exemple de passation de pouvoir à la jeunesse, Carmen Mora qui était toutefois l'égérie d'Almodovar au début de sa carrière. Les Césars ont clairement décidé également de se recentrer sur les productions de qualité, et ça on ne peut que louer cette démarche. Ils veulent délivrer des prix importants à des films exigeants, à de vraies créations d'auteurs, plutôt qu'aux éternels films Canal+, formatés et conçus dès leur production comme des véritables brouettes à César. Dans l'esprit qui avait vu, par exemple, La Graine et le Mulet, Quand la mer monte avec Yolande Moreau ou encore Lady Chatterley de Pascal Ferrand être récompensé ces dernières années, l'exercice de l'État emporte le prix majeur du meilleur scénario, tandis que le ridicule Police, hein, qui se gaussait de ses 13 nominations, ne récolte que 2 prix, dont le prix, s'il vous plaît, du meilleur montage. Alors, je sais qu'il ne faut pas dénigrer les métiers techniques du cinéma, mais enfin bon, ça sonne clairement comme un lot de consolation. Quant aux Oscars, je serai bref, c'est tout simplement chaque année la même chose. Un compromis savant entre valorisation des films, d'un film un peu surprise, hein. Si ça vient d'Europe, c'est tant mieux. C'était La Môme il y a quelques années, et cette année, c'est donc The Artist. Compromis également, car on donne des récompenses à de vieilles stars archi-académique, emblématique du cinéma de divertissement hollywoodien, dans un film biographique où il suffit tout simplement de se grimer en une personnalité pour récolter une statuette. Meryl Streep emporte logiquement l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de Margaret Thatcher.
Plus il y a d'heures de maquillage, plus on a de chances de remporter
cet Oscar. Absolument. Et ça vaut pour Marion Cotillard dans La Môme, pour Jamie Foxx quand il incarnait Ray Charles. Et la liste est longue. Enfin, les Oscars ont bien sûr récompensé un film consensuel, très consensuel d'un grand auteur, à récompenser avant qu'il disparaisse prochainement. 5 Oscars pour Hugo Cabret de Martin Scorsese. On note cependant également que la consécration de Dujardin outre-Atlantique a fait beaucoup de jaloux et a entraîné un véritable déchaînement inattendu de francophobie. En réaction au « I love your country », accent formidable de ma part, proclamé par Jean Dujardin lors de la cérémonie, un journaliste a répondu le lendemain « You love our country ». But we hate yours.
Nous détestons
ton pays. Et un journaliste du magazine américain Slate a également déclaré : j'ai passé la cérémonie assis près des gens de The Artist. Maintenant, je sens la cigarette et la suffisance. Il est difficile de savoir, même si on aime bien Dujardin, quelle est la part de vérité dans ce jugement qui est, ma foi, assez probable.
Nous arrivons au terme de ce 37e numéro de Transversar consacré au cinéma et nous espérons que le voyage vous ait plu. Au revoir Cyril.
Au revoir Pauline.
On se retrouve dans environ 3 semaines pour un nouveau numéro avec a priori un dossier sur Marilyn Monroe. Voilà, un petit...
On s'apprête à célébrer les 50 ans de sa disparition.
C'est vrai, c'est vrai. Et donc d'ici là, bon film à vous. À bientôt sur Transistor.
À bientôt.